On se souviendra donc des manifestations des dernières années. Ça avait commencé, vous le savez, avec les drag queens qui lisaient des contes dans les bibliothèques, pas dans les écoles, et puis contre ce qu'elles voyaient comme une propagande idéologiste de la théorie du genre ou de la folie wokisme. Certains disent que c'est une mode qui ferait que les jeunes veulent changer de genre et déserter en masse l'hétérosexualité. Or, leurs paroles, leurs désirs, leur capacité de s'auto-définir ne seraient pas crédibles, ce qui obligerait les adultes à les protéger d'influences nocives de la société, mais surtout d'elles-mêmes. C'est la base de l'essai Protéger nos enfants, écrit par la sociologue Gabrielle Richard, directrice également de la recherche au GRI Montréal. Bienvenue, Gabrielle, à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Merci beaucoup, Denis Martin.
Alors, à toutes nos personnes qui passent une première fois ici, on leur demande quel pronom et quel accord tu utilises.
Alors, pronom elle, accord féminin. Merci de demander.
Merci. Pourquoi écrire ce livre?
Alors, grande question s'il en est. J'ai écrit ce livre essentiellement parce que j'ai beaucoup de faits de formation de personnel éducatif en France dans les dernières années. Et je voyais que ce qui bloquait systématiquement, au-delà d'une compréhension des notions, c'était beaucoup le fait qu'on me renvoyait des questions qui pouvaient sembler banales, mais qui avaient en commun une espèce de trame narrative de décrédibilisation des enfants ou des plus jeunes personnes. Ça veut dire que j'avais face à moi les adultes qui me disaient « Oui, mais ils ne peuvent pas vraiment savoir à 13 ans qu'ils sont autre chose qu'hétérosexuels, autre chose que cisgenre. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de jeunes trans et non-binaires maintenant qu'avant, cette idée étant que les jeunes, ce qui était sous-jacent, c'était que les jeunes se faisaient influencer, qu'ils étaient incapables de penser pour elles-mêmes. » Alors, ce que j'ai vu rapidement en tirant cette ficelle-là en formation, c'est que ce qui se cachait derrière tout ça, alors oui, il y avait une question de queerphobie et d'hétéronormativité, mais il y avait une question de domination adulte.
Alors justement, moi j'ai découvert un mot en lisant ce livre, le mot adultisme. Je vais te laisser le définir.
Bien, alors, le mot « adultisme » ou l'expression « domination adulte » réfère simplement à un rapport de pouvoir entre adultes et enfants, ou plutôt entre personnes majeures et personnes mineures dans une société donnée, dans un contexte où les privilèges sur le plan légal, économique, politique et autres sont accordés aux adultes et ne sont pas accordés aux enfants. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est le fait qu'on considère que les enfants ou les personnes mineures ne seraient pas capables d'exercer leurs droits et seraient conséquemment à protéger par les adultes. Donc, c'est basé sur une bienveillance, du moins, qu'on espère mettre en place. Mais très rapidement, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi une manière de ne pas donner la parole aux enfants et de ne pas écouter les personnes mineures dans nos sociétés.
Donne-moi un ou deux exemples de comment ça s'exprime dans la société, ce genre d'adultisme.
Bien, alors, je vais donner des exemples qui prennent pour cible les populations queer, parce que c'est particulièrement évident à l'heure actuelle. Par exemple, on parle beaucoup, médiatiquement parlant, de la prise en charge ou non de mineurs trans. Est-ce qu'on devrait permettre à des mineurs trans d'accéder à des bloqueurs d'hormones, d'utiliser leurs prénoms et pronoms choisis en milieu scolaire, etc.? Ça fait l'objet de tensions à l'échelle internationale. Pour autant, presque jamais dans ces débats-là, on ne donne la parole aux principaux concernés. On est vraiment sur des adultes qui se disputent entre eux, qui sont en désaccord entre eux sur ce qui devrait être mis en place. Alors qu'on est sur une pratique qui, a priori, devrait desservir ou servir une population en particulier. Donc, l'absence des principaux concernés dans l'équation, ça parle aussi du fait qu'on considère qu'ils ne sont pas, que leur parole ne s'assume pas, n'est pas la même, à la même valeur que celle des adultes.
Tu as réussi à parler à des enfants, à des jeunes, des adolescents, adolescentes, et j'ai lu quelque chose qui m'a... Je vais essayer de le citer comme ça, mais moi, j'ai vécu ça, puis j'ai quand même 64 ans bientôt. Quand j'ai appris à mes parents que j'étais gay, « Ah, ben oui, mais c'est parce que là, c'était pas encore... t'es trop jeune pour le savoir, t'as pas encore assez d'expérience. » On dit ça encore.
On le dit encore.
Et ça laisse entendre quoi, ça, Gabrielle?
Alors, ce qui est évident là-dedans, c'est qu'il y a un double standard. C'est-à-dire qu'on va jamais dire de jeunes qui se disent hétérosexuels ou qui se disent cisgenres, donc s'identifient en conformité avec leur sexe assigné à la naissance, on va jamais remettre en question leur parole. On va prendre pour acquis que, certes, ma petite fille, t'as 7 ans, tu te vois mariée avec un homme, on prend ça pour acquis, on va jamais questionner ça. Alors qu'une jeune fille du même âge qui va dire, ben, peut-être que j'ai des attirances envers d'autres filles ou voire des femmes, on va tout de suite dire, ben, c'est impossible, t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience, attends de voir si ça va changer, essaie peut-être avec un garçon avant, ce genre de choses-là. C'est des manières assez insidieuses de miner la crédibilité de leurs paroles et de ne pas les écouter, de ne pas leur donner le plein poids qu'on donne à leur père hétérosexuel et cisgenre.
J'aimerais te poser une question très personnelle parce que tu en parles dans ton livre. Comment, toi, tu gères ça, cette relation d'adulte avec un enfant?
Bien, tu me poses la question comme si j'avais une réponse simple.
Je sais que la réponse n'est pas simple.
C'est une question complexe. Déjà, minimalement, je pense que je me pose la question. Puis je pense que c'est déjà c'est un exercice qui est particulier. Moi, je suis parent de deux enfants, une adolescente, un enfant plus jeune. Et donc, constamment, au quotidien, je réfléchis beaucoup depuis les recherches et l'écriture de ce livre-là à quel point j'exerce une autorité qui est arbitraire ou au contraire une autorité qui a plutôt lieu d'être, qui est respectueuse de leur agentivité, disons. J'y jurise pas constamment. Ce que j'essaie de faire quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la bonne volonté, ce que je n'ai pas tout le temps, je pense que c'est important de spécifier, c'est de simplement quand je demande quelque chose en particulier et que mes enfants refusent de s'y prêter, un exemple très concret, ma fille de 15 ans veut jouer aux jeux vidéo, je lui dis « termine pour cette heure-là, s'il te plaît », et elle est en désaccord avec ça, je vais lui dire « écoute, moi, je suis parlable. Tu peux essayer de pousser ton point, tu peux essayer de m'expliquer pourquoi je devrais te donner accès plus tard que prévu. Moi, je suis préoccupée par A, B, C. Maintenant, si tu penses qu'il y a une alternative qui vaut plus ou mieux, qui va plus ou mieux nous desservir les deux, je t'écoute. »
Donc, une belle négociation syndicale presque.
C'est pas évident. Je vous conseille pas de dire à vos enfants que vous travaillez sur la domination adulte. Ça leur donne des pulsions.
Tu as fait un parallèle avec les personnes queer plus âgées.
Oui.
Parce qu'on se fait dire encore, tu sais, bien des choses, ben, tu es queer, tu comprends pas. Donc, il y a même cette domination-là, se fait même envers des adultes.
Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est sur des jeunes personnes, c'est plutôt évident. Et d'une certaine manière, on s'y attend parce qu'on traite les jeunes queer comme on traite souvent beaucoup des jeunes dans nos sociétés. Mais ça détonne un peu plus quand on parle d'adultes queer qui vont parfois faire des coming out à un âge plus tardif. Mais qui vont souvent se faire ramener au fait, est-ce que tu sais véritablement, as-tu vraiment essayé, est-ce que tu parles en connaissance de cause, est-ce que tu cherches pas à attirer l'attention? C'est quelque chose qui était tellement prévalent qui, moi aussi, m'a surprise, bien que j'entends, bien sûr, les gens autour de moi me raconter ce genre d'anecdote-là. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est une manière aussi de dire, ce n'est pas le chemin attendu de toi. Est-ce que tu es sûr avant de t'écarter de la norme? La norme étant l'hétérosexualité, la binarité du genre, etc., là.
Peux-tu me dire en 30 secondes à qui s'adresse ce livre?
Ce livre s'adresse à toute personne qui est en contact avec des enfants, c'est-à-dire à toute personne dans la société.
Parents et experts.
Parents et professionnels, oui.
Bon, et j'ai lu que tu pars en tournée bientôt pour former les gens sur ces questions-là. Je voulais te remercier. Donc, le livre s'appelle « Protéger nos enfants », publié chez Remue Ménage. Et c'est l'autrice et sociologue Gabrielle Richard que nous recevions. Merci beaucoup.
Merci.